Dans les Hauts-de-France, pour les élections régionales des 13 et 20 juin prochains, il y a une alliance inédite d'Union de la gauche derrière l'écologiste Karima Delli. L'accord s'est fait en deux temps, Europe Écologie Les Verts, France Insoumise, et ensuite, ils ont été rejoints par le Parti Socialiste, le Parti Communiste Français. Qu'est-ce qui a rendu cet accord possible derrière une écologiste ?
Eh bien, écoutez, d'abord, il faut rappeler que la région est un peu particulière, la région Hauts-de-France, par rapport à la problématique de la gauche en France, puisque ça fait 6 ans que la gauche n'a aucun élu régional dans l'enceinte du conseil régional. Hein, c'est-à-dire, il faut le rappeler aux auditeurs, c'est 5 départements, donc les départements de la Picardie et les 2 départements Nord-Pas-de-Calais. En fait, lors des dernières élections régionales, la gauche a décidé de se désister complètement pour faire battre Marine Le Pen, qui avait fait 40% en premier tour, donc, ce qui est un choix qui a eu beaucoup de conséquences, puisque en fait, la gauche a disparu complètement, n'a eu aucun élu régional pendant 5 ans, ce qui est totalement inédit dans l'histoire politique de la gauche dans la région, mais aussi quasiment en France. Et donc cette fois-ci, c'était impossible de ne pas faire l'union, parce que voilà, c'est très très compliqué pour les forces de gauche de ne pas avoir d'élu, de ne pas défendre les dossiers régionaux, etc. Donc il y avait un peu une contrainte face à l'extrême droite d'union. Alors après, pourquoi l'union s'est fait derrière Karima Delli et ELV. Bon, d'abord, il faut quand même rappeler que ELV a une stratégie assez claire, alors qu'il peut être jugé un petit peu hégémonique par ses partenaires. C'est toutes les listes en France, ELV part en liste autonome partout en France. Donc, Karima Delli a réussi son pari, puisque non seulement elle est tête de liste, mais en plus, elle est tête de liste avec l'Union. Donc, pourquoi les partenaires ont suivi Karima Delli? Ben, c'est très compliqué. La négociation a été assez longue, assez tortueuse. Il y a plein de jeux politiques, diverses forces politiques. Et en gros, pour résumer un petit peu, c'est la France insoumise qui a joué un rôle assez essentiel. Puisque la France insoumise aurait pu accepter que le Parti communiste et son patron Roussel prennent la tête d'une liste, mais exiger de sa part qu'il ne soit pas candidat à l'élection présidentielle. Et face à ce refus, LFI a encouragé une alliance avec Karima Delli, et ensuite le Parti socialiste n'a pas voulu être à côté de cette alliance, et donc a rejoint Karima Delli, et puis le Parti communiste ne voulait pas présenter une liste tout seul, donc finalement il a accepté aussi l'union. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué, beaucoup de manœuvres politiques, mais le paysage politique est très compliqué à gauche, et au bout du compte, la gauche peut quand même être satisfaite, puisque c'est quasi unique en France pour l'instant. Il n'y a pas de liste d'union de la gauche comme dans les Hauts-de-France.
Alors, un programme sera-t-il facile à écrire entre des lignes politiques différentes, par exemple entre le PS et la France insoumise ?
Ça va pas être facile. Après, globalement, il faut quand même relativiser un petit peu les divergences, parce que la politique régionale n'est pas la politique nationale. Hein, au niveau régional, les forces politiques de gauche n'ont pas forcément les mêmes marges de manœuvre. Et donc, il y a moins de divergences parce qu'il y a moins de capacité d'action, en fait. Et donc, c'est un peu le discours de Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, au niveau national. Et là, il a assez raison de ce point de vue-là. C'est qu'en gros, les forces de gauche peuvent se mettre d'accord sur les politiques de transport, peuvent se mettre d'accord sur la politique d'université, de développement économique. Il n'y a pas des enjeux aussi clivants que la transition écologique, la place du nucléaire, etc. Donc, je pense qu'il est possible que ces partis se mettent d'accord. Alors la difficulté quand même, ça va être de s'appuyer en fait sur les dossiers, sur les compétences, parce que un des effets en fait de la disparition de la gauche de l'enceinte régionale, c'est qu'il n'y a pas d'élus régionaux sortants. Et donc du coup, ces élus, ces forces de gauche n'ont pas accès aux dossiers, ont perdu un petit peu d'expertise en matière régionale, et c'est assez technique les régions. Donc ça ne va pas être facile à surmonter.
Je suis au téléphone avec Rémi Lefebvre, professeur de sciences politiques à l'Université de Lille et à Sciences Po, pour parler des élections régionales dans les Hauts-de-France qui vont avoir lieu les 13 et 20 juin. Quels seront les thèmes de cette élection régionale dans les Hauts-de-France ?
La dernière fois, la campagne s'était faite beaucoup sur des thématiques nationales, et notamment sur les thématiques de l'immigration, des migrants à Calais, à Sangatte, etc. Ça avait été très très présent, le thème de l'immigration. Là, en fait, moi, ce que je crains beaucoup, c'est qu'il n'y ait pas de campagne, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une crise sanitaire qui est quand même toujours très très forte, hein, avec très peu de perspectives. D'ailleurs, bon, on était même pas sûr d'ailleurs que les élections soient maintenues, hein. Il y a toujours une incertitude, hein, en juin, est-ce qu'elles auront lieu vraiment en juin? Et c'était Elles auront lieu après l'élection présidentielle. Hein. Si la situation sanitaire ne s'améliore pas, c'est quand même une éventualité qu'il faut avoir à l'esprit. Donc j'ai peur en fait qu'il y ait une campagne plutôt atone, que la campagne se fasse aussi sur des considérations très nationales, hein, parce que finalement Xavier Bertrand est candidat à l'élection présidentielle, et donc finalement que les thèmes locaux passent un petit peu à la trappe. Hein, je rappelle que les compétences de la région, c'est le développement économique, c'est les transports, hein, donc c'est les TER, c'est quand même vachement important, c'est un peu l'environnement, c'est l'éducation, c'est la recherche, c'est les lycées. Et donc, pas sûr que ces thématiques-là, dans le cadre de la crise sanitaire, soient forcément les plus essentielles. En tout cas, je pense que c'est quand même autour du développement économique et de l'environnement que les questions vont tourner. Est-ce qu'il faut changer de modèle et vers quel modèle il faut tendre? Et puis aussi le soutien aux entreprises dans un contexte de crise sociale qui va s'abattre sur la France.
Alors, on pensait que cette élection était gagnée hein, pour Xavier Bertrand. Est-ce que c'est encore le cas?
Ça va être plus difficile. Bon, faut s'attendre à une triangulaire. La question, ça va être l'ordre à l'issue du premier tour. Voilà, Xavier Bertrand misait en fait sur une gauche divisée et du coup qui ne pouvait pas le challenger. Et donc en gros, il y aurait forcément dans le trio de tête Sébastien Chenu du Rassemblement National et Xavier Bertrand. Là, les choses sont un peu différentes, très clairement, et c'est une très mauvaise nouvelle pour Xavier Bertrand, hein, parce que effectivement, il n'est pas totalement exclu que la gauche arrive devant Xavier Bertrand ou devant Sébastien Chenu. Ça va être un peu plus difficile. Hein. En plus, c'est d'autant plus important pour Xavier Bertrand qu'il a conditionné sa candidature présidentielle à sa victoire aux élections régionales. Hein. Donc lui, en fait, il joue sa pré-campagne présidentielle, hein, Xavier Bertrand, très clairement. Donc il va falloir qu'il se mobilise. Ça va être intéressant à observer parce qu'il est fort probable qu'il cherche à débaucher des élus de gauche, notamment des anciens DPS, en leur disant « voilà, c'est une liste extrémiste dans son langage et donc je suis le candidat du Rassemblement, je suis le candidat plus modéré, n'allez pas sur une liste où il y a des candidats de la France Insoumise ». Il est en train déjà, c'est sa stratégie, hein, on l'a vu ces derniers jours, il essaie un peu de diaboliser la liste de gauche en disant qu'elle est voilà dominée par LFI, donc entre guillemets les gauchistes, et donc il y a une stratégie un peu de diabolisation. Alors, je ne suis pas sûr du tout que ça marche. Ça peut aussi mobiliser les électeurs de gauche.
Quel choix va faire le MoDem entre La République En Marche et Xavier Bertrand?
Avec le MoDem, alors que le MoDem est allié, faut le rappeler, avec Emmanuel Macron au niveau national, avec La République En Marche, une grande partie, apparemment, hein, c'est pas encore tranché, mais des cadres du MoDem souhaiteraient rejoindre plutôt Xavier Bertrand. C'est assez intéressant, ça va être aussi intéressant dans cette élection de voir comment va se comporter La République En Marche, parce que ce qui peut arriver, c'est que La République En Marche, en fait, si elle réalise un bon score, elle peut mordre sur l'électorat Xavier Bertrand, affaiblir Xavier Bertrand, et du coup, le fragiliser par rapport à une liste de gauche. Voilà, tout ça, c'est de l'arithmétique.
Alors, on parlait justement d'une triangulaire possible entre le Rassemblement National, Xavier Bertrand et l'Union de la Gauche. L'Union de la Gauche dont les différents partenaires disent ne pas vouloir se désister.
Tout dépendra de l'ordre des listes au premier tour. Si jamais on est dans une situation où, alors pour l'instant, les sondages n'indiquent pas cette tendance. Mais si on est dans une situation où Sébastien Chenu et le Rassemblement National est en tête comme la dernière fois, que on est petit 2 Xavier Bertrand et petit 3 à la gauche, bah concrètement, si les trois forces politiques se maintiennent, il y a un risque que la région bascule à l'extrême droite. Alors aujourd'hui, et c'est un peu normal par rapport au traumatisme d'il y a 5 ans, et puis c'est surtout aussi normal au début d'une campagne où vous n'allez pas jouer la défaite. Hein. Quand vous êtes candidat, vous n'allez pas envisager le pire. Bon, donc aujourd'hui, la gauche, les forces de gauche disent on ne se retirera pas. Si jamais l'extrême droite est en tête, Xavier Bertrand numéro 2, Karim Adeli numéro 3, il y aura une pression très très forte pour que Karim Adeli se désiste. Voilà, donc on ne peut pas totalement exclure cette hypothèse.
C'était Rémi Lefebvre, professeur de sciences politiques à l'Université de Lille et à Sciences Po.